Depuis le mur d'Adrien aux confins de l'Écosse jusqu'à l'Afrique du Nord, de la pointe de la Bretagne jusqu'au Danube, de l'Andalousie à la Mésopotamie en passant par l'Égypte, s'étendait autrefois l'Empire romain. Il est parti d'une petite cité qui s'est étendue à l'ensemble de la péninsule italienne, puis sur l'ensemble de la Méditerranée et au-delà, en passant bien évidemment par la Corse. La civilisation romaine fut l'une des plus influentes de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui encore, des millénaires après son apogée, elle laisse l'empreinte de sa culture, de sa langue, de son système politique et social. Qu'en a-t-il été en Corse, cette île si proche de la ville où toutes les routes conduisaient? Comment la Corse est-elle entrée dans la sphère latine? D'ailleurs, on peut se le demander, à quoi pouvait bien ressembler la Corse vers l'an 400 avant Jésus-Christ, au moment où la République de Rome commence à s'étendre dans le Latium? C'est une île peuplée depuis longtemps, très longtemps déjà. Elle fut une société guerrière où l'on retrouve les traces des castelli, d'antiques fortifications témoignant d'un passé houleux, des épées et des poignards, mais également des céramiques, des outils dont les provenances multiples attestent de la place qu'occupe la Corse au centre de ce ballet de civilisation qu'est la Méditerranée antique. Un des premiers textes mentionnant la Corse date du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Lucos de Région, actuelle Reggio Calabria, nous dit que les Curniens, Igorsi, vivent très âgés en se nourrissant continuellement de miel. Un trait économique marquant tout au long de l'Antiquité que cette abondance de miel, que l'on décrit par ailleurs comme particulièrement amer, à cause de l'abondance des fleurs de gros buis. En revanche, cela conférera à la cire des vertus médicamenteuses qui font de l'apiculture un fer de lance de l'économie corse antique. L'intérieur des terres est peuplé de bergers, marqués déjà depuis longtemps par l'agropastoralisme, des villages, ça et là, un arrière-pays sauvage, mystérieux pour les différentes civilisations qui passent et viennent au bord de mer, étonné par la densité de la végétation où l'on distingue des sentiers qui montent dans les vallées, le long des fleuves, vers les imposants promontoires rocheux. Mais qui peut bien vivre là-haut ? La Corse, au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est un carrefour de civilisations qui passent et viennent par la côte orientale et échangent, apparemment de manière apaisée, avec un arrière-pays sauvage, archaïque, mais pas forcément reclus dans l'autarcie. Quelques écrits exceptionnels nous dressent un portrait remarquable de cette Corse lointaine et méritent que l'on s'y attarde. Jean-Marie Arrigue et Olivier Géas nous rapportent les propos du romain Théophraste, qui décrit au IVe siècle avant Jésus-Christ la Corse ainsi. Les arbres sont grands, très grands, dit-on, dans l'île de Curnos. Les arbres du Latium sont excessivement beaux, mais ce n'est rien comparé à ceux de Curnos. Les Romains équipèrent un jour une expédition de 25 navires pour y tenter une exploitation. Telle était les tailles des arbres qu'en pénétrant dans les golfes, ils rompirent leurs mâts et coururent de grands dangers. L'île dans sa totalité est boisée et parée une forêt vierge. Aussi, les Romains renoncèrent à fonder un établissement. Certains d'entre eux débarquèrent et coupèrent une énorme quantité d'arbres, de façon à construire un radeau de 50 mâts, mais celui-ci se disloqua au large. Ainsi, Curnos, par l'absence de culture, par sa situation et son climat, l'emporte pour le bois sur tous les autres pays. Les forêts constituent donc une ressource naturelle exceptionnelle et particulièrement alléchante pour les puissances qui gravitent autour de l'île, qui par ailleurs est déjà bien connue des Romains. De son côté, Polybe écrit: tous les animaux vivant dans l'île paraissent sauvages pour la raison suivante. Les éleveurs ne peuvent pas suivre leurs bêtes dans les pacages parce que l'île est couverte de forêts escarpées et rocailleuses. Quand ils veulent rassembler leurs animaux, ils se placent dans des endroits propices. Ils les appellent au son de trompe et tous accourent sans se tromper de maître. Quant à Diodore de Sicile, il écrit: l'île est grande, n'offre que des parties montagneuses, couvertes de chênes épais et traversées de petits fleuves. Les habitants se nourrissent de lait, de miel et de viande que le pays procure en abondance. Dans tous les rapports sociaux, ils se comportent convenablement et selon la justice, contrairement à presque tous les autres barbares. Les rayons de miel qu'ils découvrent au creux des arbres appartiennent au premier qui les trouve, sans contestation. Les troupeaux sont distingués par des marques. Même sans les faire garder, les propriétaires les conservent sans dommage. Dans toutes les autres circonstances de la vie, ils observent chacun merveilleusement la justice. Cette île est habitée par des barbares qui ont une langue étrange. Leur nombre dépasse 30 000. Nous avons donc, aux premières lueurs de l'aube romaine, une terre où l'intérieur se gouverne avec une certaine intelligence sociale et un grand sens de la proximité, un trait qui caractérisera souvent le peuple corse. Un arrière-pays certes sauvage, archaïque, doté de coutumes, d'une langue et d'usances propres, mais en interaction permanente avec les civilisations gravitant au gré des courants marins autour de la Méditerranée. La côte orientale est d'ailleurs dotée d'infrastructures qui vont faciliter ce transit. Une cité est au centre des échanges. Nous la connaissons aujourd'hui sous le nom romain d'Aléria. Pour l'heure, elle porte le nom grec d'Alalia. Alalia est un site remarquable, où les insulaires développent des infrastructures dès le début du premier millénaire avant notre ère. Ils disposent d'un promontoire où l'on peut s'installer en sécurité à proximité immédiate du Rotanos, l'actuel Tawinianu, et de l'étang d'Urbino, du mot latin urbs, la ville. On y bâtit un port. On retrouve à Aléria et sur l'ensemble de la côte orientale des vestiges d'amphores étrusques venus de l'actuelle Toscane, des céramiques puniques venues de Carthage, proches de l'actuelle Tunis, grecques, phéniciennes, ibères, celtes et venues du Latium des Romains, sans oublier une part honorable de poterie produite localement. En 562 avant Jésus-Christ, venus d'Asie mineure et chassés de leur comptoir Massilia, l'actuelle Marseille, par les Perses, les Phocéens s'installent à Aléria et en rehaussent les murs. Autre acteur de ce bouillonnement, la florissante cité de Syracuse, en Sicile, qui à partir de 458 avant Jésus-Christ, fonde Portus Syracusanus, l'actuel Portuetiu, qui soit dit en passant porte vraiment bien son nom. Cet ensemble de structures portuaires, reliées par un antique réseau routier, permet d'exporter les productions insulaires vers les cités étrusques de Volterra, Cerveteri, Tarquinia et Pobulogna, cette dernière possiblement fondée par des peuples venus de Corse en des temps plus reculés. L'île produit donc du miel, de la cire, mais également des produits de résineux et du bois. Nous l'avons vu. Même si depuis le néolithique, l'usage pastoral du feu pour établir de nouveaux pacages a dégradé une partie des forêts exceptionnelles du centre Corse, le pays reste une terre très boisée. Il est même possible par ailleurs que les Étrusques aient entamé l'exploitation minière du territoire. On notera qu'il s'agit pour les Corses d'échanges et non pas d'occupation au sens militaire du terme. Aucune bataille majeure n'est d'ailleurs mentionnée entre les Corses et ces différentes puissances transitant par la côte orientale de l'île. Ce qui est loin d'être le cas plus tard avec les Romains. Mais ne brûlons pas les étapes. Pour l'heure, c'est entre les Étrusques, les Carthaginois et les Phocéens d'Alalia que les choses vont s'envenimer. Certains affirment que ces derniers pratiquent le piratage. D'autres, que les autres puissances étaient inquiètes de l'influence croissante des Phocéens. Il s'agit probablement d'un conflit d'intérêts commerciaux entre acteurs concurrents ayant de parts de marché à défendre sur le commerce en Corse. Le fait est qu'en 535 avant Jésus-Christ, une flotte coalisée de vaisseaux étrusques et carthaginois se présente devant Aléria. Les Phocéens se portent courageusement à leur rencontre. Ils sont dépassés par le nombre. 60 navires contre 120. Les deux tiers de leur flotte sont détruits. Vaincus, les Phocéens quittent Aléria, comme ils quittèrent Marseille, pour s'établir à Région, l'actuelle Reggio Calabria. Aléria va demeurer un comptoir cosmopolite prospère. Mais les influences ont changé, ce qui aura des conséquences sur l'avenir. Car le temps passe. Nous sommes en 264 avant Jésus-Christ. Et de toutes ces influences passées par la Corse, deux puissances émergent en Méditerranée et sont prêtes à s'entre-déchirer pour la domination du Mare Nostrum. D'un côté, les Romains se sont emparés de la péninsule italienne, éclipsant les Étrusques. De l'autre, les Carthaginois possèdent une partie de l'Afrique du Nord, de l'Espagne et de la Sicile. Si la Corse est pour les Romains une terre neutre, Carthage est de loin la mieux implantée dans l'île. C'est donc avec cette distribution de cartes que la Corse s'apprête à entrer dans l'un des premiers conflits à grande échelle de l'histoire, les guerres puniques. Carthage est donc une ville puissante et florissante, située au nord de l'Afrique, à 15 km de l'actuelle Tunis. Elle est le fer de lance de ce que l'on appelle la civilisation punique, en référence à la teinture pourpre dont leurs ancêtres phéniciens sont les inventeurs. C'est une puissance commerciale qui dispose de l'un des plus grands ports au monde et d'une flotte militaire très puissante. Leur armée est constituée de mercenaires. Ainsi, Jean-Marie Arrigue et Olivier Géaz nous rapportent le récit d'Hérodote en 480 avant Jésus-Christ. Une armée formée de Phéniciens, de Libyens, d'Ibères, de Ligures, de Sardoniens et de Curniens, Baladi, Sardi et Corsi, montant à 300 000 hommes que commandait Hamilcar, fils d'Anon, roi des Carthaginois. On notera au passage qu'il y a 2500 ans, les Corses étaient déjà des mercenaires, une constante que l'on retrouve tout au long de l'histoire. La bataille d'Alalia contre les Phocéens et ce texte montrent que les Corses sont davantage dans l'orbite punique que dans celle romaine, pourtant géographiquement beaucoup plus proche. Cela peut s'expliquer par le fait que Rome est à l'époque une puissance continentale. Elle contrôle la péninsule italienne et n'a pas de marine puissante, là où Carthage est un territoire éclaté et brille sur la mer. La guerre éclate en 264 avant Jésus-Christ. L'issue est longtemps incertaine. Les légions romaines et leurs carrés d'infanterie sont déjà redoutables sur terre. Mais contrer les Carthaginois sur mer est une toute autre histoire. Récupérer la maîtrise de Sardinia, c'est-à-dire la Sardaigne et la Corse, qui sont à l'époque systématiquement associées, serait un sacré coup tactique pour les Romains. De plus, Rome s'est dotée d'une marine de guerre digne de ce nom. Elle a développé un nouveau système d'abordage, le Corvus, une passerelle qui permet à la redoutable infanterie romaine de prendre d'assaut les navires ennemis et de porter l'avantage terrestre sur mer. Très vite, la Corse et la Sardaigne deviennent des terrains d'affrontement. Les Corses ont, paraît-il, une alliance avec le chef punique Hannon. En 258, les Carthaginois sont vaincus au sud de la Sardaigne, à Sulci. Les Romains dominent désormais l'île à l'exception d'Olbia et sa forteresse, fermement tenue par Hannon. En 259 avant Jésus-Christ, le consul romain Lucius Cornelius Scipion, le grand-père du légendaire Scipion l'Africain, mène une expédition. Il attaque Olbia et la détruit. Hannon est tué dans les combats, Scipion lui fait de dignes funérailles, puis attaque la Corse avec ses légions. Alalia est prise, elle est rasée, puis rebâtie par les Romains sous le nom d'Aleria. Dans l'Acta Triumpharum de Rome de l'année 259 avant Jésus-Christ est écrit « Lucius Cornelius Scipion triompha des Puniques et de la Sardaigne et de la Corse les 5e ides de mars. » Rome est en train de soumettre les îles les plus proches de son territoire. En 241 avant Jésus-Christ, les Romains sont une nouvelle fois vainqueurs de Carthage au large de la Sicile dans les îles Égades, ce qui met fin à la première guerre punique. Mais ça n'est qu'un premier round que les Romains viennent de remporter. Côté Corse, la romanisation est un concept encore bien lointain. Côté Carthage, on est loin d'avoir dit le dernier mot. « Les conséquences de la première guerre punique sont lourdes pour Carthage. La cité garde son indépendance, mais doit payer un tribut très important à Rome. Elle perd la Sicile. La Sardaigne et la Corse, elles, ne font pas partie du traité de paix, mais de fait, elles viennent de basculer dans la sphère latine. La Corse, qui était plutôt calme depuis plusieurs siècles, semble supporter assez mal ce nouveau pouvoir. L'autorité romaine est rapidement mise en difficulté. Une première révolte éclate en 238 avant Jésus-Christ. Elle est réprimée par le consul Tiberius Gracchus. Les pertes sont lourdes pour les insulaires et ils sont bien nombreux à être déportés, puis vendus comme esclaves sur le continent. Le premier baiser romain a un goût amer. À peine 2 ans plus tard, en 236, Marcus Claudius Clinéas est envoyé pour achever la conquête de l'île. Finalement, il signe une paix avec les Corses. Le consul Caius Licinius Varius poursuit le combat malgré la trêve. À Rome, la paix de Clinéas est jugée honteuse, mais le Sénat est néanmoins embarrassé par cette rupture. Il livre le malheureux Clinéas aux insulaires, sans doute en attendant d'eux une exécution sommaire. Mais ces derniers n'en font rien et refusent même de recevoir cet otage de luxe. Un geste difficile aujourd'hui à interpréter. Sans doute que malgré leur rudesse et l'extrême dureté de la situation et des combats, les barbares corses sont capables de mansuétude. Sans doute reconnaissant du geste de paix du commandant romain. Après tout, barbare veut juste dire étranger, pas sauvage. Après tout, cette Corse était bien calme depuis des siècles. Et les Corses y échangeaient de manière apparemment apaisée avec les Grecs, les Étrusques, les Phéniciens et tant d'autres. À son retour à Rome, Clinéas est mis à mort par ses propres concitoyens. Un tournant vient d'être pris. On ne transige plus. La Corse est officiellement romaine. Rome n'a plus à y négocier quoi que ce soit, puisqu'elle est chez elle. Clinéas l'a appris à ses dépens. Une réaction brutale qui peut s'expliquer par une certaine nervosité due au contexte international. Carthage est en train de se relever. Son général, Hamilcar Barca, a maté les révoltes des mercenaires qui minaient la cité de l'intérieur depuis la fin de la première guerre punique et a conquis une bonne partie de l'Espagne. Carthagène est fondée sur la côte méditerranéenne. Autrement dit, Rome ne peut pas se permettre de perdre une position aussi tactique que la nouvelle province de Sardaigne, englobant les deux îles. D'un point de vue officiel, c'est fait. La Corse est romaine. D'un point de vue concret, la romanisation est à ses balbutiements. Un impitoyable et interminable cycle de guérilla et de répression se prépare. De l'autre côté de la mer, le général carthaginois Hamilcar fait jurer haine aux Romains à ses trois fils, Hasdrubal, Magon et un certain Hannibal. Pour Rome, les ennuis en Méditerranée ne font que commencer.